Il est 7h43 sur France Culture. Le 20 janvier prochain, l'administration Obama rendra les clés du pouvoir à l'équipe du président élu Donald Trump. Le 20 janvier, c'est donc dans un peu moins d'un mois. Et d'ici là, il semblerait que Barack Obama ait décidé de ne pas rester inactif et de border quelques sujets sensibles sur la scène internationale. Tout du moins, il vient par exemple de sanctuariser des millions d'hectares dans l'Atlantique et dans l'Arctique pour empêcher de futurs forages d'hydrocarbures dans les zones polaires. Mais il vient surtout de laisser passer vendredi dernier une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2334, qui condamne fermement la colonisation de la Cisjordanie par Israël et qui intime l'ordre au gouvernement israélien d'interrompre toute nouvelle implantation. Alors bien sûr, cette résolution n'est pas contraignante, mais elle est tout de même sans précédent, puisque jusqu'à présent les États-Unis avaient toujours mis leur veto à l'adoption d'un texte de cette tonalité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est bien évidemment furieux, il le fait savoir à qui veut l'entendre depuis ce week-end. Alors comment comprendre ce revirement de l'administration américaine dans les derniers jours de son mandat? Cette résolution 2334 est-elle à même de changer les choses ou n'est-elle qu'une forme de coup de pied de l'âne pour embarrasser la prochaine administration Trump? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir autour de la table des matins Ofer Bronstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, président du Forum international pour la paix. Nous sommes également en compagnie de Bertrand Badi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Alors, pour commencer, qu'est-ce que dit exactement cette résolution 2334, Ofer Bronstein?
Elle dit en fait ce qui est dit depuis déjà 50 ans, c'est que les colonies et les territoires occupés en 1967 par Israël et sont des territoires occupés, et donc il est illégal, selon le droit international, de s'y implanter et de tenir la population locale sous le joug des bottes militaires. Elle dit ce que Israël dit. C'est pour ça que je suis un peu étonné de tourbillon de réactions ces deux derniers jours. Israël n'a jamais reconnu ces territoires comme étant des territoires israéliens, puisque les deux seuls territoires qu'Israël a annexés et en ont fait partie intégrante de l'État d'Israël, c'est Jérusalem-Est et c'est le plateau du Golan. Le plateau du Golan maintenant est plus dans les radars, puisque la Syrie n'est plus la Syrie. Donc il y a uniquement Jérusalem-Est qui est aujourd'hui considéré par Israël comme étant un territoire sous juridiction israélienne. Tout le reste des territoires occupés en 1967 sont des territoires occupés et donc illégal de s'y implanter, illégal de s'y développer, aussi bien pour la législation israélienne que pour la communauté internationale. Ce qu'a fait la communauté internationale en votant la résolution 2334, c'est aider les Israéliens et les Palestiniens à se remettre autour de la table de négociation et arriver à un accord, puisque la seule solution aujourd'hui à ce conflit qui dure depuis 100 ans, c'est la solution des deux États.
Alors, ça c'est théoriquement, mais on voit bien que pratiquement Benjamin Netanyahou et son administration sont absolument furieux, que les implantations continuait dans l'indifférence internationale depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous comprenez, vous, Bertrand Badi, comment vous comprenez l'absence de veto des États-Unis? Pourquoi est-ce que cette résolution 2334 est passée?
Je suis d'accord pour considérer qu'effectivement la substance de cette résolution n'a rien de révolutionnaire, mais tout le contexte est révolutionnaire. Et je crois que ça n'a échappé à personne. Premier élément, c'est effectivement l'absence de veto américain. C'est-à-dire ce fameux bouclier diplomatique dont on parle tant, qui était quand même une constante de la politique étrangère américaine et qui visait à ne jamais mettre les gouvernements israéliens successifs en situation d'embarras devant les institutions internationales. Là, il y a une rupture quand même qui est très forte, c'est-à-dire que même si on est dans le domaine du symbolique, la symbolique est très forte parce que pour les États-Unis, ce bouclier diplomatique était une constante, une tradition. Vous savez qu'en politique étrangère, surtout lorsqu'on est une grande puissance, s'émanciper de ces traditions est une chose difficile. Parce que, par ailleurs, l'environnement dans lequel se trouvait Obama n'était pas tellement favorable. Toute la campagne électorale a été dominée sur le plan démocrate par la personnalité d'Hillary Clinton, qui est très proche du gouvernement israélien et qui n'aurait jamais probablement procédé à ce genre de posture diplomatique. Une fois cette hypothèque levée, eh bien, effectivement, Barack Obama s'est engagé. Vous savez, ça veut dire aussi plusieurs autres choses derrière cela. Ça veut dire d'abord que le grand frère n'est plus dans la position de pouvoir imposer tout au petit frère, que lorsque Barack Obama avait fait pression sur Netanyahou pour qu'il gèle, seulement gelé, les colonisations comme préalable à un processus de négociation, celui-ci avait refusé de manière très hautaine et très arrogante. Donc, inverser la vapeur, même pour le plus grand États de la coalition, enfin, en tous les cas, de la protection qui entoure Israël, c'était très difficile. Et puis, il y a une autre chose dont il faudra parler, c'est que l'initiative est venue non pas des membres permanents du Conseil de sécurité, mais de petits pays qui représentent...
Qui ont tous été sermonnés très
certaines virulences. Très vertement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils représentent tous les continents de la planète. Et ce sont des acteurs diplomatiques qu'on n'attendait pas.
Le Sénégal, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande.
Voilà, la Malaisie, le Sénégal, etc. Alors que l'Égypte du maréchal Sissi, a fait marche arrière devant les rodomontades et de M. Netanyahou et de M. Trump, ce qui est quand même intéressant à souligner.
Alors effectivement, la résolution vient de ces pays. Néanmoins, Benjamin Netanyahou dit à qui veut l'entendre, soit directement, soit à travers son porte-parole David Case, que Obama ne s'est pas seulement contenté de laisser passer, c'est-à-dire de s'abstenir, de ne pas mettre son veto, mais c'est lui qui aurait directement piloté, qui serait directement à la manœuvre derrière cette résolution. Est-ce que vous le croyez, vous, Ofer Bornstein?
Oui, il est évident que Obama est absolument au diapason avec la politique américaine depuis toujours. Démocrate, républicain confondu.
Il a démenti, hein.
Je vais vous rappeler qu'il y a 3 mois déjà, bien avant l'élection du futur président américain, des centaines d'Israéliens, et pas des moindres, des ex-chefs des renseignements israéliens, des ex-chefs du Mossad, de nombreux généraux israéliens ont écrit au président Obama pour lui demander justement d'encourager le processus de paix par une résolution du Conseil de sécurité. Donc il y a une volonté de la part des Israéliens, et pas des moindres, d'encourager les Américains, d'encourager la communauté internationale à aider les Israéliens, à aider les Palestiniens à se retrouver autour d'une table de négociation et à dessiner le contour du futur État palestinien qui devrait vivre en paix avec Israël. Et je tiens à vous rappeler, par exemple, en 1992, lors de la première conférence de Madrid, qui a relancé et qui a été la première initiative internationale pour lancer le processus de paix. On espère voir la même chose le 15 janvier à Paris à l'initiative française. C'est le président Bush, père, républicain, qui, pas seulement n'émet pas de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, mais qui oblige les Israéliens, et à l'époque c'est Yitzhak Shamir qui est Premier ministre, et le vice-ministre des Affaires étrangères qui l'accompagne à Madrid s'appelle Benjamin Netanyahu déjà à l'époque. Et les Américains obligent les Israéliens à venir autour de la table des négociations en 92 à Madrid, avec sous les auspices de la Russie, de l'Europe et de l'ONU. Donc les Américains, ce n'est pas la première fois qu'ils font pression d'une façon radicale, forte, poignante, sur le gouvernement israélien. Et surtout les Républicains. On a tendance à dire « Ah, Obama, le démocrate, le gauchiste, etc. » C'est totalement faux. Il faut rappeler que je pense, moi, que Obama était le président le plus amical, le plus solidaire avec l'État d'Israël. Jamais un président américain, et ça s'est fait il y a 2 mois, n'a signé un accord de contribution économique de 39 milliards de dollars. C'est le président Obama qui l'a fait il y a 2 mois pour Israël. Jamais un président américain...
Oui, enfin, il y a 2 mois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il le fait sur la fin de son mandat.
Non,
parce que par rapport à ses ambitions de début de mandat, on voit bien que quand même il y a eu des discours, il y a eu le discours du Caire notamment.
Je voulais vous dire quelque chose par rapport à son début de mandat. C'est vrai qu'en début de mandat, sa première... il a été très impliqué. Kerry était présent tout le temps sur le terrain, aussi bien à Paris que à Jérusalem, mais
et toutes les initiatives se sont un peu détricotées les unes après les autres.
C'est pas sur les colonies justement où il y a eu un accord entre les Américains et le gouvernement israélien au premier mandat de Barack Obama. C'est sûr, les Américains ont demandé à Israël, pour revenir à la table des négociations, faites un choix, libération de prisonniers ou gel des colonies. Benjamin Netanyahu s'est engagé vis-à-vis des Américains, pas vis-à-vis des Palestiniens, à ce que ce sera la libération de prisonniers, un engagement que Netanyahu n'a pas respecté. Donc c'est vis-à-vis des Américains qu'il n'a pas respecté son engagement, pas seulement vis-à-vis des Palestiniens.
Bertrand Badi, vous hochez de la tête, vous partagez pas tout à fait le point de vue de Feuerbornstein sur
je
cette...
Je ne dirais certainement pas, sauf respect à votre égard, que Barack Obama a été le président le plus favorable à Israël, au gouvernement israélien, si on regarde... Pour des raisons très simples, c'est que l'accord, par exemple, passé avec l'Iran, le fameux traité du 14 juillet 2015, s'est fait dans un contexte de tension et même de violence entre Netanyahou et Obama, qui a été tout à fait remarquable. Il faut quand même pas oublié.
Obama, c'est pas entre les Israéliens et les Américains. L'accord avec l'Iran va dans l'intérêt d'Israël aussi,
enfin,
à mon avis.
Enfin, Netanyahou, c'est le monsieur que les Israéliens ont élu et porté et reporté à la tête de l'État d'Israël. Une crise comme celle que l'on a vue entre l'administration Obama et l'administration de Tel Aviv, jamais on ne l'avait connue auparavant. Jamais. Même, vous avez raison de mentionner le cas de George H. Bush et de la conférence de Madrid, lorsqu'il a imposé qu'une délégation palestinienne soit présente à Madrid, c'est vrai. Ça a coûté d'ailleurs probablement à Bush sa réélection, mais une situation où le Premier ministre d'un pays va devant le Congrès des États-Unis pour dénoncer la politique étrangère de son président, c'est quand même quelque chose de lourd, quelque chose de très fort, qui a profondément marqué les relations américano-israéliennes. Et on voit très bien qu'on est à la veille probablement de l'arrivée au pouvoir de celui qui, aux États-Unis, sera le président le plus favorable à Israël, à savoir M. Donald Trump.
Alors, Feuerbornstein, vous n'êtes pas d'accord. Néanmoins, moi, je vais m'appuyer sur un titre de presse aujourd'hui, Le Figaro. Titre dans son édition du jour, Netanyahou en campagne anti-Obama. Le Premier ministre israélien craint que cette affaire de veto qui n'a pas été posée, donc de résolution 23-34, ne soit que les prémices d'une autre affaire et d'un mauvais coup, je cite Le Figaro, avec le soutien de la France, un mauvais coup qui aurait lieu dans le cadre de cette réunion de Paris du 15 janvier que le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a décrit comme une nouvelle affaire Dreyfus. C'est pas exactement ce qu'on imagine comme les termes d'une histoire d'amour entre Barack Obama et le Premier ministre israélien.
Non, ça oui, ça vous avez raison. Entre Barack Obama et le Premier ministre israélien Netanyahou, il n'y a absolument pas d'histoire d'amour. Il y a un conflit
personnel depuis longtemps.
Depuis que Barack Obama est président des États-Unis. Mais il n'y a pas de schisme, il n'y a pas de cassure entre les États-Unis et Israël. La coopération israélo-américaine est au beau fixe. Encore une fois, Obama l'a étoffé, lui a donné une impulsion qui est très importante. C'est Obama, les Américains, qui financent à coups de milliards de dollars les nouvelles armes israéliennes, comme Dôme de Fer, par exemple, qui est stratégiquement très important pour Israël et qui a coûté aux contribuables américains des milliards de dollars. Comme, par exemple, donner à Israël ce qui n'est donné à personne au monde, le meilleur avion américain, le F-35, qui coûte plusieurs centaines de milliards de millions de dollars la pièce, ça a été fourni à Israël. Les premiers sont arrivés la semaine dernière en Israël. Donc c'est plutôt personnel entre Obama et Netanyahou. Maintenant, quant à ceux qui pensent, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Paddy, que Donald Trump sera bien meilleur que Barack Obama vis-à-vis d'Israël, j'en suis pas persuadé. Il faut se rappeler, et c'est vrai qu'il a dit tout et son contraire pendant la campagne électorale, mais Donald Trump, pendant sa campagne électorale, avait dit qu'il va demander à Israël de rembourser toute l'aide qu'elle a reçue des États-Unis et qu'il arrêterait cette aide massive qui coûte cher aux contribuables américains à Israël. Ça, aucun, ni candidat, ni président américain ne l'avait jamais dit. Donc, je suis pas sûr qu'avec Donald Trump, attente de jours sympathiques pour Monsieur Netanyahou.
Il y a tout de même eu plusieurs membres du cabinet de Netanyahou et du gouvernement qui sont réjouis publiquement de l'élection de Donald Trump et du changement de pouvoir
pour
à la Maison-Blanche.
Pour des raisons de politique et d'idéologie, parce qu'ils se réjouissent que les néoconservateurs et les républicains prennent le pouvoir, pas parce qu'ils seront plus pro-israéliens que les démocrates. C'est les démocrates aux États-Unis qui ont toujours été les plus pro et favorables à Israël. Encore une fois, le contexte, ce qui est important, c'est pas si les États-Unis ont émis un veto ou pas. Ce qui est important, c'est qu'après 100 ans de conflit, 25 ans d'accords d'Oslo qui n'ont pas été respectés, la guerre, le conflit qui dure le plus longtemps dans le monde, qui a un impact en France, qui a un impact à Berlin, qui a un impact à Londres, qui a un impact au Moyen-Orient, personne n'arrive à conclure un accord entre Israéliens et Palestiniens. La communauté internationale a décidé d'aider les Israéliens et les Palestiniens à arriver à un accord. C'est la résolution 2334 ne condamne pas Israël. Elle n'est pas anti-israélienne. Elle dit...
Elle n'est pas contraignante.
Elle n'est pas contraignante. Elle dit ce que tout le monde dit, y compris les Israéliens. Les colonies sont illégales pour permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de dessiner le contour du futur État palestinien afin que la seule solution viable, plausible, intelligente pour les Israéliens et les Palestiniens, c'est-à-dire la solution de deux États. Vivront en bon voisinage.
On reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette problématique de la solution et de la réalité d'une solution à deux États. Est-elle encore possible quand on est à plus de 600 000 colons répartis en Cisjordanie? J'aimerais quand même, Bertrand Badie, un mot quand même sur cette hypothèse de Netanyahou que j'évoquais tout à l'heure, d'un mauvais coup, c'est-à-dire d'une déclaration de John Kerry au moment de la réunion de Paris qui ferait passer une résolution in extremis juste avant la fin du mandat Obama pour poser les bases d'une nouvelle résolution pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Vous y croyez, vous ?
Moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objet. C'est-à-dire qu'on est dans une phase en ce moment d'énonciation. C'est-à-dire énoncer les paramètres présent de ce conflit. Et cette résolution a été une double énonciation par rapport à la colonisation, par rapport à l'attitude américaine. La conférence de Paris du 15 janvier peut être aussi, si elle est réussie, un relais dans l'énonciation. C'est-à-dire qu'il y a déjà bien longtemps que l'on n'énonçait plus, que l'on ne disait plus, que l'on se contentait effectivement de passages à étapes qui étaient toujours aussi défavorables que possible à la cause de la paix. Là, il y a un rééquilibrage. Pour l'instant, ce n'est qu'un rééquilibrage rhétorique, mais ce n'est pas rien. Il faut savoir ce que c'est qu'une politique étrangère. Une politique étrangère, c'est aussi obéir à tout un tas de constantes. Là, on est en train de faire un peu bouger les lignes, et c'est beaucoup.